Non voglio che aprano quella porta.
Polizia,
non voglio che aprano.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Non. Ils pensent que c'est d'en bas que vient le diable.
Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3.
Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Je ne veux pas qu'on me guérisse.
Vous commettez l'erreur de traiter vos amis comme des patients. Cela vous permet de les infantiliser, ne leur laissant le choix que de devenir d'inconséquents laquais ou les gendarmes de votre dogme, pendant que vous trônez sur votre montagne, figure de l'infaillibilité paternelle dont nul n'osera tirer la barbe en disant « Regardez-vous et décidez ensuite qui de nous deux est le névrosé. »
Il sera présent en tout lieu avec vous. Après la chute, vient l'avènement. Et il a de grands projets pour vous. Il vous libérera.
Lâchez-moi, laissez-moi partir.
Ouvrez les portes de votre cœur. Lui seul peut vous libérer. Ayez foi en lui.
Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Nuit Blanche, le podcast. Pour prolonger notre épisode sur le cas de la jeune Annelise Michel, décédée en 1976, et qui, durant les dernières années de sa vie, se disait possédée et damnée, nous vous proposons en cette fin d'année un épisode hors série sur le thème des exorcismes et des possessions. Entre connaissances et expérience, rencontre avec le pasteur suisse Pierre Hamet. Monseigneur Athanasios, chef de l'Église copte orthodoxe de France, le père Samuel Rouvillois et Laurent Bernard, évêque, exorciste et auteur du livre « Le grand livre de l'exorcisme ». Nous approfondirons aussi nos connaissances sur ce que l'on nomme les forces du mal et nous reviendrons sur l'histoire du rituel de l'exorcisme dont la pratique est antérieure à la naissance du christianisme.
Suddenly it occurred.
Tout à coup, les gens, qu'ils aient la foi ou non, se sont mis à croire aux démons et aux châtiments.
Bienvenue à Saint-Blaise, en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. C'est ici qu'habite Pierre Hamet. Il nous ouvre les portes de sa maison pour évoquer ensemble le sujet des possessions. Avant de lui poser quelques questions sur le diable, Dieu, les anges et les démons, on commence par les présentations. Pierre Hamet est né à La Chaux-de-Fonds en 1946.
Je vais faire naître la souffrance. Je vais faire naître l'horreur. Afin que vous puissiez vous élever au-dessus.
Oui, c'est bien ça. Donc, en fait, précisément, je suis né à La Sagne, en 1946. J'ai passé quelques années merveilleuses dans cette belle vallée, et ensuite à La Chaux-de-Fonds. Et puis, c'est vrai que j'ai d'abord eu un parcours de scientifique, d'ingénieur en mécanique, et de longues études, et j'ai travaillé dans l'industrie. Et après, il y a eu une conversion assez bouleversante. Dieu m'a saisi, a retourné ma vie. Et puis, j'ai été appelé à faire de la théologie. Et ensuite, j'ai été pasteur, mais aussi conférencier.
Alors, entre ça et le lieu lui-même où on a l'impression que le temps s'est arrêté, on a le parfait terreau pour les démons, les forces du mal.
Cet après-midi, on va parler donc de l'exorcisme, du diable, de l'enfer qui peut être sur Terre. Je voulais savoir qui va s'exprimer en fait pendant cette interview, Pierre. Est-ce que c'est l'homme de foi, le théologien, ou l'homme d'expérience, ou peut-être un peu des trois?
Je dirais c'est effectivement au nom de tout ce que je suis et que j'ai été dans ma vie, y compris scientifique aussi, parce que j'ai gardé un sens aigu de l'analyse scientifique. Deux et deux font toujours quatre, y compris dans la foi chrétienne. Mais c'est vrai aussi que j'ai été confronté dans ma vie de croyants, de pasteurs, à des situations douloureuses, précises, de personnes qui étaient aux prises avec des puissances démoniaques.
Fils de la perdition. Petit cornu. Petit monde.
Ça me manque ces noms d'autrefois.
Est-ce que vous faites, Pierre, une différence entre le diable, Lucifer, Belzébuth ou Satan ?
Alors effectivement, la Bible utilise tout un langage au sujet des puissances sataniques. Belzébul, entre parenthèses, c'est, on attribue ce nom à Jésus en disant « Tu agis, tu chasses les démons par Belzébul qui est le prince des démons ». Donc c'est pas Jésus, c'est pas la Bible qui donne ce nom à Satan. Mais par contre, ça sera le serpent ancien, le Léviathan, ça sera le prince de ce monde. Et puis Satan qui est le chatan, qui est le diviseur. Donc il est tellement présent dans la Bible à tout moment qu'il a plusieurs noms.
Dieu est tout, Dieu a tout créé. Est-ce qu'il a créé aussi l'enfer? Ou est-ce que c'est, j'allais dire, une erreur de parcours dans la création du monde?
Fiston, j'ai un immense parc d'attractions plein de délices rouges karma qui t'attend.
Alors, pour ma part, je crois fermement à ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que Dieu est dans un amour absolu. Je sais qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile à croire cela. Il y a tellement de choses qui ne vont pas bien, mais on se trompe d'adresse quand on accuse Dieu. Dieu est amour. Il a créé un monde parfait, une relation parfaite entre les humains et entre les humains et Dieu. Maintenant, l'amour, je suis convaincu, implique la liberté. Et j'ai de la peine à comprendre des fois qu'on ne comprenne pas cela. Parce que qui serait d'accord aujourd'hui, en tout cas dans notre Occident, d'être obligé de se marier avec une personne qu'elle n'a pas choisie. En tout cas, les jeunes diraient, ou non, en tout cas jamais. Donc, comment imaginer qu'un Dieu créateur, parfait, aimant, puisse imposer à des créatures d'avoir la seule possibilité de l'aimer? Et il a laissé cela aussi pour les êtres célestes qu'il a créés, puisqu'il y a toute une armée céleste des anges qui existent, des myriades même. Donc, ayant cette possibilité, Satan, Lucifer, comme un de ses noms dans Ésaïe aussi, en a usé finalement pour se révolter, ce qui est très moderne, se révolter contre Dieu, prendre le pouvoir. C'est littéralement un coup d'état céleste, on pourrait dire.
Trahison, meurtre, génocide. Je suis peut-être un peu naïf.
Je cherche simplement à inspirer à l'humanité ce à quoi elle était destinée.
En remettant la terre entre les mains du fils du diable. Éclaire-moi.
Dans les années 70, Pierre Hamet décide de suivre des études de théologie à l'Institut biblique Emmaüs, puis à la faculté de théologie de Neuchâtel. Déjà à cette époque, il s'intéresse de près à certains thèmes toujours d'actualité, comme le New Age, les phénomènes paranormaux, les médecines parallèles et l'apocalypse. En 1980, il devient pasteur de l'église réformée évangélique neuchâteloise à Saint-Blaise-aux-Trives. Sans vraiment le chercher, son parcours l'amènera à pratiquer à plusieurs reprises l'exorcisme, qu'on appelle aussi la prière de délivrance. Mais comment fait-on, en tant que pasteur, pour déterminer si une personne est possédée par une entité malveillante ou simplement en proie à un délire mystique?
Une fois en vous, ils vous connaissent et se souviennent. C'est pourquoi ils parlent toutes les langues de Babel.
Je reconnais que ce n'est pas toujours facile de faire la différence. C'est pour ça que moi, je me suis toujours entouré de psychologues ou de psychiatres. Quand j'ai des doutes sur la situation d'une personne, je n'hésite pas à les envoyer pour consulter ces personnes-là. Mais parfois, c'est ces personnes-là qui disent, nous, on ne peut pas aller plus loin, il y a quelque chose qui nous dépasse. Maintenant, d'un autre côté, quand on commence à prier pour quelqu'un, on voit quand même assez vite, des fois, s'il y a des manifestations très particulières qui n'arrivent que dans le temps de la prière. Et à ce moment-là, je dirais, on vérifie spirituellement qu'est-ce qui se passe. Alors, on peut poser des questions. Ce qui est toujours important, c'est qu'on doit toujours avoir le contact avec la personne, n'est-ce pas ? On n'est pas dans une sorte de magie, de sorcellerie, où la personne serait inconsciente. Il faut qu'elle participe aussi. On peut parler avec elle. Des fois, elle peut plus. Des fois, elle tombe. Des fois, elle crie. Il y a toutes sortes de symptômes qui peuvent arriver. Mais c'est important. Moi, je m'arrête souvent. Je dis, comment vous vous sentez ? Elle dit, voilà, j'ai une angoisse dans mon ventre. C'est quelque chose de terrible qui me fait souffrir. Alors, on continue de prier. Et des fois, cette angoisse va monter dans la poitrine. Et puis, des fois, elle est expulsée par la bouche. Et puis, tout à coup, la personne peut dire, mais je me sens maintenant vraiment bien. Elle retrouve la paix. Voilà un peu le cheminement. Alors, des fois, ça se passe sans cri, sans rien. Tout simplement, je dirais, sans aucune manifestation. Et puis d'autres fois, il y a des manifestations violentes, bizarres, difficiles. Et puis, je dirais qu'on peut se tromper aussi. Peut-être qu'on peut avoir l'impression d'avoir chassé un démon, alors qu'il n'y avait pas de puissance particulière là, mais on n'aura pas fait de mal. Pour autant qu'on ne démonise pas la personne, ça, c'est un cheminement spirituel de discernement aussi.
Ce monde est mien à jamais. Toi, mieux que quiconque, Gabriel devrait comprendre. L'ambition,
fils de la perdition, petit cornu, petit monde.
Ça me manquait, ces noms d'autrefois. Il est temps de rentrer à la maison, fils.
Je vais te mettre à bas. Oh, son honneur.
Quelle que soit l'époque que l'on considère, quel que soit le point du globe où l'on se trouve, toutes les sociétés humaines ont cherché, et cherchent encore, à combattre le mal, ou du moins à le maîtriser.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Prions le Seigneur.
Pour les bases, tout le monde s'accorde à peu près sur les mêmes interdits fondamentaux. Tuer, voler, blesser, mentir, etc. En interdisant les mauvaises actions, les humains cherchent à réduire l'emprise du mal sur leur société. Les différentes traditions diffèrent cependant dans leur analyse de ce qu'est le mal. Est-ce une abstraction, un concept, une personnification symbolique pour justifier nos errements et nos erreurs ? Ou est-ce que le diable et les démons possèdent une existence tangible, réelle, et nous poussent activement à mal agir ?
Eh bien, nous allons voir ce qui se passe.
Rapprochez-vous ! La truie est à moi ! Baise-moi ! Baisse-moi ! Baisse-moi !
Dans les religions antiques, il existe souvent une ou plusieurs figures démoniaques qui expliquent par leur seule présence l'existence du mal, des cataclysmes, de la souffrance et de la mort. Les Grecs assimilaient le mal à Typhon, un dieu monstrueux au corps couvert d'écailles et de vipères. Dans l'Égypte ancienne, les praticiens de la magie noire tenaient leur savoir et leur pouvoir de Seth, le dieu du désordre et de la violence. Le démon est aussi bien présent dans un grand nombre de religions traditionnelles. Même si elles ont été réduites à du folklore par leur représentation médiatique, on a tous en tête l'image des cérémonies vaudou destinées à libérer quelqu'un de l'emprise du démon. Il en va de même pour les religions orientales, en hindouisme par exemple. De façon intéressante cependant, la plupart des divinités portent en elles une sorte d'équilibre. Ainsi, Kali est à la fois la déesse de la préservation, de la transformation et de la destruction. Dans les religions monothéistes, L'une des questions fondamentales est celle de l'origine du mal. Si Dieu est fondamentalement bon, omniscient et omnipotent, alors comment se fait-il que le mal existe ? Le récit fondateur des trois grandes traditions, islamique, judaïque et chrétienne, se rejoignent sur ce point. Satan, ou Iblis dans la tradition musulmane, est un ange qui s'est rebellé contre Dieu. À cause de son arrogance et de son refus d'obéir au Seigneur, il a été maudit. En attendant l'heure du jugement dernier, il ne vit que pour égarer les humains qu'il déteste.
Ce monde est mien à jamais. Toi, mieux que quiconque, Gabriel devrait comprendre. L'ambition.
Fils de la perdition. Petit cornu. Petit monde.
Ça me manquait, ces noms d'autrefois.
Dans l'islam et le judaïsme, cependant, le mal n'existe pas en tant que tel. Il n'est qu'une conséquence des mauvaises actions des hommes. À ce titre, le judaïsme moderne assimile les cas de possession diabolique, tels qu'ils sont définis dans l'Église catholique, à des névroses ou à des phénomènes d'autosuggestion.
Qui est cet étranger ?
J'en sais rien.
C'est le capitaine, c'est tout ?
Je ne sais pas.
Si je lui pose la question, tu lui permettras de répondre ?
Non.
Pourquoi ?
J'ai trop peur.
Si c'est à moi qu'il parle, je crois qu'il te quittera. Est-ce que tu veux qu'il te quitte ?
Oui.
Même son de cloche chez les protestants. Dans la plupart des églises de la Réforme, le mal reste une idée abstraite. Seule l'Église orthodoxe et l'Église catholique reconnaissent et l'existence de Satan et son pouvoir sur les hommes, autrement dit la possession.
La prière est notre unique salut. C'est votre unique salut et n'oubliez pas ceci, il vous connaît. Il connaît chacun de vos péchés et de vos secrets.
Dans la tradition catholique romaine, on parle souvent de Satan ou du diable au singulier, mais il s'agit en fait d'une multitude. Le démon est légion, c'est une multitude grouillante et chaotique, d'autant plus difficile à définir que c'est une unité négative, divisée et destructrice. De façon assez révélatrice, on va accuser, selon l'époque, différents individus ou groupes d'individus d'être des agents du démon, littéralement l'incarnation du mal. Au Moyen-Âge, ce sont les musulmans, les turcs et les arabes. Ensuite, ce seront les hérétiques, les sorciers et les sorcières, les juifs, les blasphémateurs, les gays et surtout la femme. De façon bien commode pour un clergé monopolisé par les hommes, la femme est considérée comme un être prédestiné au mal, un appât dont Satan se sert pour attirer l'autre sexe en enfer.
Si tu n'arrives pas à te contrôler, comment empêcheras-tu les hommes de te contrôler ? Ta mère a quitté cette église contre mon gré et regarde ce qui lui est arrivé. Elle a laissé un parfait inconnu.
Inconnu ?
L'emporter sur la pente du péché.
Attends.
Et c'est ce qui va t'arriver à toi aussi.
À partir du XVIIIe siècle, l'émergence des Lumières d'abord et de la psychanalyse ensuite vont faire évoluer la conception de l'Église à propos du diable et des démons. Au XIXe siècle, Sigmund Freud formule l'hypothèse selon laquelle l'origine des troubles névrotiques se trouve dans les désirs oubliés ou refoulés. Le diable n'est plus une puissance extérieure, il est caché dans l'inconscient.
Si vous êtes là, vous êtes également hypnotisé et vous devez répondre à toutes mes questions. Alors parlez.
À partir du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique ne sait plus très bien où elle en est avec le diable. Le démon est-il un mythe ou une réalité ? Pour certains ecclésiastiques, comme le pape François lui-même, le diable existe, c'est une certitude, et il faut lutter contre lui. Mais pour d'autres, Satan appartient à la culture d'autrefois. La doctrine de l'Église, sur ce point comme sur d'autres, doit être mise à jour.
Dites-moi, est-ce qu'un voleur ou un cambrioleur allume la lumière quand il vole votre maison ? Non. Il préfère que vous pensiez qu'il n'est pas là. Comme le diable, il préfère que vous pensiez qu'il n'existe pas.
Ça devient compliqué si aucune preuve du diable est quelque part une preuve du diable.
Et peut-être qu'au fond, c'est William Shakespeare qui a raison. L'enfer est vide, tous les démons sont ici.
Tu n'auras pas cette pute, elle est à moi. Et tu peux être sûr que je la tuerai avant que tu ne la prennes. Avec tous les esprits, fais à l'image de Dieu et avec son amour.
Ah! Chasse!
Mais alors, est-ce que l'enfer serait sur Terre? Écoutons ce que Pierre Hamet, pasteur, ingénieur et théologien, peut nous dire à ce sujet. Voici une brève description de l'enfer d'après les textes sacrés.
Que ton âme appartient vraiment à l'enfer. Qui sème le vent, récolte l'ouragan.
Alors bon voyage en enfer. Je chercherai là-bas.
Dans Apocalypse 12, il est suggéré que dans la chute de Satan, qui a été quelque part chassé de ce paradis céleste, quand je dis céleste, n'y voyez pas le haut, le bas, mais voilà, le monde de Dieu, il a dit qu'il a entraîné le tiers au fond des anges avec lui. Donc,
ce sont les fameux anges déchus.
Voilà, les anges déchus, qui sont organisés aussi en hiérarchie. Ça, la Bible dit clairement. Et il y a un texte, je trouve, étonnant, dans Daniel 10, par exemple, au prophète Daniel, où Daniel est dans la détresse, il prie pendant 3 semaines, et rien ne se passe, et au bout de 3 semaines, il y a un ange qui arrive. Et puis, il dit, écoute, je suis un peu en retard, mais ta prière a été entendue dès le départ, et j'ai été envoyé pour te fortifier, pour t'encourager, pour te dire aussi un certain nombre de choses sur les temps qui vont venir. Mais j'ai été combattu par l'ange de la Perse. J'ai été combattu, donc il y a une guerre spirituelle. Je sais, on peut dire, mais c'est de la mythologie. Non, c'est pas de la mythologie, c'est une réalité. Il peut y avoir des guerres célestes. Donc il y a des anges et des puissances qui sont plutôt attribuées, la Bible dit, à des pays qui ont des responsabilités, qui ont une certaine hiérarchie. Donc voilà, c'est ce que la Bible dit. Et puis je crois que c'est ce qu'on voit sur le terrain. Il y a des démons, en guillemets, à mon avis, qui sont plus faibles que d'autres, et d'autres qui sont des principautés beaucoup plus puissantes.
Est-ce que vous vous souvenez, Pierre, la première fois où vous avez justement pratiqué l'exorcisme, ce s'est passé comment et avec qui, si c'est pas trop indiscret?
C'était dans un camp de ski très précis de la paroisse de Saint-Blaise-aux-Tribes dans les années 90. Là, il y avait des jeunes qui venaient de ce qu'on appelle la zone de Neuchâtel, avec leurs bottes cloutées. Il y avait 140 jeunes dans ce camp, leurs blousons de cuir. Et un soir, j'ai annoncé l'évangile et j'ai parlé de l'apôtre Pierre. Et j'étais dans ce passage où Pierre suggère à Jésus qu'il ne va pas mourir, c'est pas possible, c'est le Messie. Donc il lui dit non, mais ça ne va pas t'arriver. Et Jésus discerne, non pas en tant que l'apôtre Pierre lui-même, mais qu'il est porteur à ce moment-là d'une voix différente, et il lui dit « Arrière de moi, Satan ». Voilà, je continue la soirée, et à la fin, j'invite ceux qui souhaitent faire un pas, aller plus loin, poser des questions, et voilà que 3 de ces jeunes, avec bottes cloutées, veston de cuir, se précipitent, montent, et me demandent de parler. Alors, il y en avait d'autres qui étaient dans une salle, et j'en essaye 2, l'un en face de l'autre. Et puis, je dis au premier, d'abord, pourquoi vous êtes là? Ils disent, quand tu as dit « arrière de moi, Satan », les 3 ont été jetés en arrière sur leur chaise, vraiment par une force invisible. Et je dis au premier, mais est-ce que tu veux faire un pas? Puis il dit, oui, ça m'intéresse beaucoup, je veux le faire une fois dans ma vie, mais je ne veux pas le faire ici parce que je veux d'abord retrouver ma zone. Si je fais quelque chose, voilà. Bon, je demande au deuxième, et le deuxième me dit, alors moi, j'ai fait un pacte de sang avec Satan. Je lui dis, mais est-ce que tu permets que je prie pour toi? Alors j'ai commencé de prier, et là, ça a été terrifiant. Son visage s'est transformé, il sifflait comme un serpent, et il a commencé de dire des choses à son copain qui était là, des choses inimaginables, avec une voix qui n'était pas la voix de ce jeune. C'est un démon vraiment qui agissait avec puissance, avec force. Il y a des jeunes qui étaient là, au fond du couloir, qui étaient terrorisés, qui se sont mis à genoux. Et je dirais, là, vous, entre guillemets, vous faites pas le malin, si vous voulez, voyez. Vous sentez que vous êtes en face de puissance qui, effectivement, pourrait vous terrasser.
Vous êtes senti dépassé à ce moment-là?
Non, parce que j'avais cette paix intérieure de me dire que le nom de Jésus, la puissance de Jésus, moi, non, j'ai pas de puissance. Mais Jésus nous a dit « chassez les démons ». Alors, j'ai continué la prière, et puis la situation s'est calmée. Mais alors l'autre jeune qui m'avait dit « je vais attendre », il m'a dit « alors je donne ma vie ce soir à Jésus ». Et c'était très beau. Alors c'était un sevrage de la drogue, je dirais ça a duré 2 à 3 ans comme sevrage et puis comme parcours, mais il est entièrement délivré, père de 3 enfants, il va vraiment bien, c'est une très très belle histoire.
Dans la lumière, je t'appelle. Dans la lumière, je t'appelle.
Pour se protéger des forces du mal, il existe depuis la nuit des temps tout un tas de rituels et même des talismans. Si par malheur le démon s'empare de votre corps et de votre âme, il vous reste encore une chance de vous en sortir. Il faut pour cela le déloger avec des incantations magiques ou des incantations sacrées. Des incantations que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'exorcisme.
Alors allons-y. Ô Seigneur, nous vous demandons votre protection.
Amen.
Sauvez votre serviteur.
Qui a tant confiance en vous, mon Dieu.
Et placez autour d'elle, ô Seigneur, une tour fortifiée.
Qui en elle contiendra l'ennemi.
Ô Seigneur, écoutez ma prière.
Et laissez mes pleurs atteindre votre cœur.
Que le Seigneur soit avec vous.
Et avec vous aussi.
Aussi étrange que cela puisse paraître, le concept même d'exorcisme est antérieur au christianisme, qui ne fait que perpétuer la tradition de la délivrance démoniaque pour l'élever au rang de véritable institution. Cette pratique remonte à la nuit des temps. Dès l'apparition des premières sociétés primitives qui possèdent déjà tout un socle de croyances qui s'articule autour de la notion dualiste de bien et de mal. La religion babylonienne, entre autres, développait une démonologie fort complexe. On y pratiquait déjà des exorcismes pour délivrer des lieux et des personnes. Pour s'en démarquer, l'Ancien Testament, qu'on appelle aussi la Bible juive, fait tenir aux démons une place marginale. Il n'est cité que 2 fois et n'est pas abordé comme un personnage, mais comme un concept de penchant mauvais. C'est ce qui explique aussi le fait qu'il n'y a aucune trace de prière d'exorcisme. Le texte sacré ne mentionne pas d'acte de délivrance.
Si une personne, vous savez, possédée par un esprit, un démon, à qui s'adresse-t-on pour un exorcisme ?
Il faudrait d'abord la mettre dans une machine à explorer le temps et la ramener au XVIe siècle.
Je crois pas.
À notre époque, Mlle McNeil, ça n'arrive plus.
Ah oui, depuis quand ?
Depuis la découverte des maladies mentales. La paranoïa, la schizophrénie.
Il faut attendre les récits du Nouveau Testament pour qu'enfin le mal soit personnifié, incarné avec toute une population de démons dont le chef suprême est un prince tout-puissant nommé Satan. Satan, un nom propre qui vient du verbe hébreu Satan, qui signifie à la fois adversaire mais aussi attaqué. Une signification donc qui prend tout son sens lorsqu'on aborde le thème de l'exorcisme.
Eh bien, nous allons faire les présentations. Je suis Damien Carras.
Moi, je suis le diable ! Veuillez détacher ces sangles, je vous prie.
Si tu es le diable, pourquoi ne les fais-tu pas disparaître ?
C'est une façon trop vulgaire de montrer mon pouvoir, Carras.
Où est Régine ?
Elle est ici, avec nous.
Satan personnifie aux premières heures du christianisme tout le bestiaire vulgaire des croyances païennes qu'il faut combattre. Satan, c'est aussi l'ennemi du peuple de Dieu. Il peut à tout moment exercer son pouvoir sur lui, le manipuler, le tromper et même le posséder. Le tout premier exorciste du christianisme est sûrement d'ailleurs Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, on lit 5 récits d'exorcisme, 4 chez Marc et 5 chez Luc.
J'ai eu affaire à 2 types de mal dans ma vie. Le mal secondaire, engendré par les hommes, et le mal originel, d'une nature totalement différente.
Ça veut dire quoi ?
Vous devez vous souvenir que dans la religion catholique, il y a de nombreux signes spécifiques qui indiquent la présence d'un esprit malin.
Je suis désolé, padre, mais je trouve grotesque de dire que des esprits invisibles sont responsables des horreurs commises par les gens. C'est clair ? J'ai vu des choses effroyables, mais rien qui ne soit expliqué par la nature humaine.
Alors vous n'avez pas vu le mal.
Tout au long de sa vie publique, Jésus combat le mal et il délivre ceux que tourmentent les esprits mauvais. Le démoniaque de la synagogue de Capharnaüm, le possédé de Gérasa, la fillette syrophénicienne, l'épileptique possédé au pied du Tabor. Il est même précisé qu'il exorcise par le doigt de Dieu. Le Nouveau Testament est donc une étape décisive dans l'histoire de l'exorcisme, car il va rapidement être associé à la foi chrétienne. Autre étape importante, en l'an 416, le pape Innocent Ier réserve aux prêtres et aux diacres le pouvoir d'expulser du corps d'un individu les esprits maléfiques à l'aide d'eau bénite, d'huile, de sel, en prononçant la célèbre formule latine « Vade retro Satana ». Mais au-delà du combat spirituel, l'exorcisme est surtout un formidable outil de propagande et de conversion. Dès l'Antiquité tardive, il est acquis dans la population que les exorcismes réalisés par les chrétiens sont bien plus efficaces que ceux des païens.
Écoute,
tout ce que tu verras et tout ce que tu entendras ne sera qu'illusion. N'écoute rien. Regarde ailleurs. C'est clair. N'écoute rien. Ce ne sont que des illusions.
À partir du début du Moyen-Âge, des prêtres spécifiques sont spécialement formés pour l'exorcisme. On développe l'exorcisme mineur, qui a lieu avant ou pendant le rituel du baptême, et le grand exorcisme, qui consiste en une célébration liturgique pour chasser le démon. Malgré ce que l'on pourrait penser, du XIe au XIVe siècle, on constate un certain effacement de l'exorcisme dans les livres liturgiques. C'est ce que nous explique Florence Chavmahir dans son ouvrage « L'exorcisme des possédés dans l'Église d'Occident ».
Le signe le plus identifiable d'une possession est la réaction manifeste aux objets sacrés.
Mais le rituel fera son retour sur le devant de la scène en 1487, tout comme le diable avec la parution en pleine période d'inquisition du Maleus Maleficarum, rédigé par deux moines dominicains allemands, Heinrich Kramer et Jacob Sprenger. À cette époque, on fait une distinction entre ceux qui étaient possédés et ceux qui étaient ensorcelés, mais dans les deux cas, on considère que c'est le diable qui s'est introduit dans leur âme. Mais attention, l'ensorcelé, à l'inverse du possédé, l'avait lui-même activement sollicité. Pour ce dernier, on pratique l'exorcisme. Pour le premier, on préfère le bûcher. Ou plutôt la première, car pendant la Renaissance, se répand aussi vite que la peste dans toute l'Europe, la chasse aux sorcières.
Une fois encore, nous sommes rassemblés pour restaurer l'innocence. Nous brûlons cette sorcière pour triompher du mal, le démon! Le démon a engendré cette immonde abomination!
Un siècle après le Maleus Maleficarum, Jérôme Mengo, franciscain italien, considéré comme le père de l'exorcisme, publie Flagellum Deumenum Exorcismos Terribiles Potentissimos et Efficaces. Au moment où ces manuels d'exorcisme deviennent de plus en plus précis, on assiste à une spectaculaire recrudescence de cas de possession. En 1614, la codification des rituels ordonnés par le Concile de Trente inclut la publication d'un manuel officiel des exorcismes, le Manuale Exorcismorum. Le point culminant de cette hystérie collective est atteint au XVIIe siècle avec l'affaire des démons de Loudun. Des crises de possession vont se manifester de 1632 jusqu'en 1637 dans un couvent d'Ursuline dans la ville de Loudun. Les sœurs hurlent, parlent avec une voix d'outre-tombe, se déshabillent, se caressent en public, grimpent aux arbres comme des chats.
En 1647, le couvent des Ursulines à Loudon, en France, a été ravagé par la possession. 34 sœurs ont été touchées par le diable et se sont livrées à d'innombrables actes.
Oui, c'est vrai. Elles ont fait des orgies avec des chèvres, mais étaient-elles vraiment possédées ou tout simplement excitées? Et imaginatives?
4 prêtres ont été envoyés au couvent pour exorciser les démons. 3 d'entre eux ont aussi été possédés et sont morts par la suite.
Cette soudaine bouffée de démence fait grand bruit. Les religieuses sont exorcisées plusieurs fois par jour. Et 20 ans plus tard, c'est au tour d'un couvent d'Ursuline à Auxonne près de Dijon de devenir l'épicentre des forces du mal. Cela se passe entre 1658 et 1663. Une quinzaine de religieuses, raconte-t-on, sont habitées par le démon. Puis arrive le siècle des Lumières. Certains chrétiens commencent à douter de la réalité des manifestations sataniques. Quant aux intellectuels, ils considèrent l'exorcisme comme inutile, voire dangereux, même si la superstition est encore bien ancrée dans les populations.
Savez-vous ce qu'est un exorcisme? Eh bien, c'est un rituel archaïque par lequel les rabbins ou les prêtres essaient de chasser le soi-disant esprit envahisseur. Cette pratique est abandonnée de nos jours, sauf par les, Les catholiques qui préfèrent l'entourer de silence à cause de ses aspects embarrassants. Cependant, elle a donné des résultats. En fait, ils étaient obtenus pour des raisons différentes, naturellement. C'est uniquement une sorte de force de suggestion. La victime croit en la possession. C'est cela qui provoque en elle un syndrome. Et le fait de croire au pouvoir de l'exorcisme peut le faire disparaître.
Au XIXe siècle, le diable est intégré à l'iconographie romantique. Il est plus séduisant, incarnant le héros malheureux. Outre-Manche, se développe déjà tout un mouvement occultiste et satanique qui va rapidement se propager dans toute l'Europe de l'Ouest. Puis, avec l'émergence de la psychiatrie, le Vatican, soucieux de son image, prend de plus en plus de distance avec les rituels d'exorcisme. Malgré le recul des exorcismes au sein de l'Église, la naissance du rationalisme, de l'esprit critique et scientifique, Satan n'a pas encore dit son dernier mot. En 1972, lors d'une audience générale, le pape Paul VI déclare « J'ai la sensation que, par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu. »
Dis-moi comment tu t'appelles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de me dire ton nom. Au nom du Saint-Esprit, je l'ordonne, dis-moi ton nom. Car c'est Dieu qui te somme de dire ton nom. Ton nom. Dis-moi ton nom. Oh oh oh
Comment pratique-t-on un exorcisme, qu'on appelle aussi le rite de délivrance? Voici les explications de Monseigneur Athanasios au micro de Yann-Éric Payret. Abba Athanasios est chef de l'église copte orthodoxe de France. Il est aussi exorciste.
Fais confiance au Seigneur. Le Seigneur te sauvera. Le Seigneur subviendra à tes besoins. La loi de notre Dieu. Crois-tu en Jésus-Christ? Crois-tu que le Christ va te guérir? Crois-tu que le Christ peut te guérir? Hein? Le Christ peut-il te guérir? Alors sois guéri.
Donc il y a des prières, ce qu'on appelle d'introduction, des prières que l'on dit au début. Ensuite, il y a la récitation de l'exorcisme, soit celui de Saint-Cyprien et Sainte-Justine, soit celui de Saint-Grégoire, Saint-Basile-le-Grand, soit celui de Saint-Jean-Chrysostome, celui de Saint-Michel, nous en avons un certain nombre.
Inaya Adina, Emmanuat. T'en as pas encore assez fait, hein?
Ensuite, il y a à la fin de l'exorcisme, des prières d'exorcisme, je pose l'épitrachilion, que l'on appelle en Occident l'étole, sur l'épaule droite de la personne. Et là, il y a des prières que je récite, que l'on m'a communiquées oralement, qui ne sont pas écrites, et que je dis en grec. Et si la personne d'aventure connaît le grec, je la dis en slavon ou en arabe, ce n'est pas la question. Ensuite, il y a aspersion d'eau bénite. Ensuite, il y a des onctions d'huile, que nous faisons nous avec un pinceau, on ne touche jamais le corps de la personne, donc avec un pinceau surmonté d'une croix, on fait des onctions d'huile sur le front, les yeux, les narines, le menton, les oreilles, la nuque, le devant de la gorge, sous le menton, et puis l'intérieur des mains, l'intérieur des poignets et sur les deux mains. Après, je récite le credo de Nicée Constantinople. Et les deux exorcismes qui suivent, les personnes non seulement sont très fatiguées, mais tout est pire encore dans leur état. Je pense que c'est le mal que l'on a remué qui se venge avant, qui se débat avant de partir. Je n'ai pas d'autres explications. Et au fur et à mesure que le temps passe, après, les choses se remettent plus ou moins vite selon les personnes, les choses se remettent en place.
Tu n'es pas un démon, tu es une jeune fille innocente. Tu es une jeune fille innocente, tu es une jeune fille innocente qui ne sait pas de... Je pense que tu es une petite fille innocente. Voilà ce que je pense. Je pense que tu es une petite fille.
Elle est pas innocente.
En implorant notre Seigneur, en invoquant le Tout-Puissant, je dis, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres,
des
contre les esprits de ces lieux.
Et dans un exorcisme, un grand exorcisme que j'avais fait il y a quelques années, le démon fou furieux, j'ai essayé de d'en savoir plus. Je lui ai demandé pourquoi, je l'ai sommé de me répondre au nom du Christ, pourquoi les démons semblaient si déchaînés en ce moment. On le voit partout, les gueules, etc. Il m'a répondu, nous n'en avons plus pour longtemps. Alors, nous n'avons plus pour longtemps, ça peut vouloir parler de la fin du monde. Maintenant, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 10 siècles. Hein. Dit par des esprits de l'au-delà, on ne peut pas exactement savoir. Mais c'est vrai que le démon semble particulièrement se déchaîner. Regardez le 20e siècle, il n'y a pas eu un siècle plus barbare. Puisque dans ce même exorcisme, tenant la croix devant le visage de la possédée, je m'adressais au démon, puisqu'elle n'était plus consciente. Et je lui ai dit, pourtant, tu sais que par cette croix, tu vas être battu, perdu. Et j'ai mis la croix sur la poitrine de la personne. Le déchaînement est épouvantable. Ils savent, c'est plus fort qu'eux, tellement leur haine est forte, mais ils savent qu'à la fin, évidemment, c'est Dieu qui va gagner.
Fais-le sortir ! Fais-le sortir !
In nomine Patrice et Filii est Spiritus Sancti Extinguetur Optionis Virtus Diaboli. In nomine Patrice et Filii et Spiritus Sancti.
En 2012, sort sur les écrans le film Devil Inside, un film d'épouvante américain réalisé par William Brent Bell. Devil Inside raconte une histoire fictive, celle d'Isabella Rossi, dont la mère est internée à Rome, à l'hôpital psychiatrique Centrino. Maria Rossi a sauvagement assassiné 3 personnes le 30 octobre 1989, alors qu'on pratiquait sur elle un exorcisme. 20 ans plus tard, sa fille décide de la rencontrer et de l'aider avec le concours de 2 jeunes prêtres, Ben Wallings et David Keane. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. À l'occasion de la sortie en salle de Devil Inside, Paramount Pictures France a produit une interview avec le père Laurent Bernard. Voici un extrait de cette entrevue.
Vous en saurez plus au bout de 5 minutes de réel exorcisme qu'en suivant des cours pendant 3 mois. En plus, vous apprendrez à faire la différence entre possession et maladie mentale.
Je suis Monseigneur Laurent Bernard. Je suis évêque de la petite église apostolique vieille catholique qui est séparée de Rome. Donc, je ne suis pas un évêque catholique romain. Je pratique et je travaille dans le domaine de l'exorcisme depuis une 20aine d'années.
Toutes ces années que j'ai passées dans l'église, j'ai vu le diable bien plus souvent que je n'ai vu Dieu.
Oui, alors en tant que religieux, je vais vous affirmer que le mal existe vraiment. Toutes les religions, depuis l'aube de l'humanité, ont toujours lutté contre le mal, sous toutes ses formes.
Ça ne ressemble à aucune forme de possession que j'ai déjà vue. Je suis désolé, Isabella.
En général, ce genre de problème ne touche que les personnes qui sont sensibles et intuitives. Un des premiers symptômes que l'on retrouve dans cette situation, c'est la fatigue sans raison. Par exemple, une personne se réveille le matin épuisée. Et ensuite, nous avons un certain nombre de problèmes qui vont aller crescendo dans la vie. Ça peut être des problèmes d'ordre sentimentaux, des problèmes d'ordre professionnel, des problèmes d'ordre familiaux, qui font que la personne va petit à petit se retrouver isolée de son contexte, de sa famille, de ses proches, et va se trouver plus facilement sous l'emprise du mal. Alors, bien sûr, il faut rester les pieds sur terre. On peut tous avoir des périodes de malchance. Mais si cette période de malchance dure longtemps, à ce moment-là, je crois qu'il faut se poser d'autres questions.
La science ne peut plus nous aider et la religion doit prendre le relais, ce que les gens peuvent avoir vraiment du mal à accepter.
Il y a plusieurs sortes d'exorcismes. Donc, comment se passe un exorcisme ? Vous avez 3 degrés d'exorcisme. Vous avez les exorcismes tels qu'on le voit dans le film. C'est un premier degré. Le prêtre récite des prières et fait ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose. Ensuite, vous avez un deuxième degré d'exorcisme qui sont les exorcismes beaucoup plus techniques, beaucoup plus qui travaillent par exemple sur les plexus énergétiques des personnes. Donc là, on rentre un peu dans des choses cachées, dans des choses qui sont plus étranges et qui sont plus réservées. Et vous avez des exorcismes de troisième degré qui sont pratiqués lors des cas particulièrement graves. Il y a des rituels qui sont à la portée de tout le monde et il y a des rituels qui sont gardés secrets. les prêtres catholiques romains filment parfois leurs exorcismes, nous également, mais les images ne sont jamais diffusées au public pour ne pas amplifier le phénomène, pour ne pas donner une prise au mal. Et il y a beaucoup de choses, heureusement, qui sont cachées par le Vatican, qui sont cachées également par les autres églises qui pratiquent l'exorcisme, de façon à ce que le public ne soit pas atteint psychologiquement, de façon à ce que le public n'ait pas peur de ces choses. Mais je sais que dans les archives secrètes du Vatican, nous avons des vidéos qui sont très impressionnantes.
Par exemple, rien qu'en Italie, il existe plus de 800 cultes sataniques.
Le mal se retournera toujours contre l'exorciste. Donc la première des choses que doit faire l'exorciste, c'est de se protéger contre ce retournement des forces négatives contre lui. Donc que le prêtre exorciste soit possédé, c'est normal. L'exorcisme est un combat spirituel, mais c'est un combat. À partir de là, l'exorciste doit s'entraîner. Un exorciste bien entraîné aura des résultats puissants.
Relis les entailles.
Le père Samuel Rouviwa est titulaire d'un doctorat de philosophie de l'Université de la Sorbonne et d'une maîtrise de théologie de l'Université catholique de Lyon. En mai 2007, lors d'une conférence, il dresse le portrait de notre société. Une société moderne, technologique, mais aussi rattrapée par ses vieux démons, avec, comme nouveaux héros, les forces du mal. Le père Samuel Rouviwa.
L'exorcisme. Le rituel visant à chasser les démons qui prennent possession d'individus est un phénomène aussi ancien que la civilisation. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, cette pratique connaît un incroyable renouveau.
Entre-toi ! Je sais que t'es là !
On peut dire que ce qui est frappant, c'est le retour, en tout cas dans la culture, je pense beaucoup aux jeunes, je pense beaucoup au monde cinématographique, au monde de la bande dessinée, au monde de la musique, d'un imaginaire très marqué par les esprits négatifs, les anges, le combat entre les bons anges et les mauvais anges, et une espèce de l'eau quotidien, d'accord ? Mais ça va jusqu'à Buffy les vampires. C'était il y a 2 ans, je me souviens, quelqu'un qui n'allait pas bien, c'était avaler tout Buffy les vampires. Alors j'ai demandé de m'expliquer Buffy les vampires. Et dans Buffy les vampires, il y a une très bonne théologie, en gros. À 80% de Buffy les vampires, c'est de la bonne théologie derrière. Donc il y a une vraie théologie du diable, du pouvoir des diables, du pouvoir des bons anges, des mauvais anges. C'est pas du tout délirant. Donc j'allais dire, aujourd'hui, les gens qui fabriquent ce genre de choses, je parle pas des gens qui font des films comme L'Exorciste, mais tous les gens qui travaillent sur ces choses-là, ces films-là sont beaucoup plus renseignés, beaucoup plus informés, vous voyez, ils font ça de manière beaucoup plus théologique qu'on ne le pense.
Combien as-tu expédié en enfer ? Pas un hybride en colère, Midnight, un vrai démon à part entière dans notre dimension. Il ne me semble pas nécessaire de te rappeler que c'est impossible. Et hier, j'ai vu un démon soldat essayer de se frayer un chemin à travers une petite fille. Écoute, John, les démons restent en enfer, les anges au paradis. C'est la clé de la détente entre les deux vraies superpuissances.
C'est marrant, dans la jeune génération, ils croient beaucoup plus. Il y en a plein qui ne croient pas en Dieu, mais alors ils croient tous aux démons. C'est très, très bizarre. Vous faites un petit sondage, là. Prenez les moins de 30 ans, là, vous pouvez y aller. À mon avis, vous en avez 70% qui croient au diable. Et à mon avis, vous ne devez en avoir pas plus de 50% qui croient en Dieu.
Qu'est-ce qu'il veut de moi ?
Ce qu'il veut toujours, l'abnégation, croire en lui.
Oh, mais je crois en Dieu.
Non, tu sais, et ça n'est pas la même chose. Toi, tu as vu ?
J'ai jamais demandé à voir.
Alors, l'Écriture a l'air de nous dire qu'une fois qu'on l'a chassé et qu'on laisse la maison vide, il revient cette fois plus fort. Il y a un petit peu quelque chose comme ça dans le monde occidental contemporain. C'est si vous voulez, la sophistication de la culture peut des fois s'élaborer avec une sophistication du mal. Et on est un peu là-dedans, nous, aujourd'hui. On est dans un mal très sophistiqué.
Il faut croire, 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 croire. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de partir. Par le sang du Christ, démon, sors de ce corps. Le démon est parti, le démon n'a pas pu résister au signe de notre Seigneur. Dieu soit loué.
Blanche.
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en exorcisme et démonologie, voici quelques références qui pourraient vous intéresser. On commence par le grand livre de l'exorcisme, un ouvrage de 420 pages rédigé par le père Laurent Bernard pour comprendre le pourquoi et le comment de cette étrange lutte du bien et du mal. C'est aux éditions Exergue. À lire aussi « Les prêtres exorcistes, enquêtes et témoignages » de François Dunois-Canette. C'est un journaliste spécialiste des questions religieuses. Ce livre, paru pour la première fois en 1993 aux éditions Robert Laffont, contient plusieurs rencontres avec des prêtres exorcistes. Loin des clichés, il aborde toutes les questions que l'on peut se poser, que l'on soit un néophyte ou une personne avertie, pour tout ce qui concerne la démonologie.
Les démons sont les fantassins du diable, opérant souvent en groupe, comme un escadron, envahissant leurs victimes. Le travail de l'exorciste consiste à déterminer le nombre de ces démons et leur nom, ce que les démons protègent avec grande férocité.
Les prêtres exorcistes sont-ils des thérapeutes de l'âme, des mystiques déconnectés de la réalité ? Et les patients sont-ils réellement manipulés par le malin ou traversés par une grave crise psychologique et existentielle ? Vous aurez près de 250 pages pour vous faire une idée sur le sujet. Dernier ouvrage à lire de préférence en journée, « Moi, le dernier exorciste » du père Gabriel Amort, décédé en 2016 à l'âge de 91 ans. Il a été pendant 36 ans l'exorciste du diocèse de Rome. Le père Amort affirmait que le film d'épouvante « L'exorciste » était son film préféré. Ce livre est un témoignage de son parcours, mais surtout de sa lutte incessante contre les forces du mal. Certaines histoires sont saisissantes, comme celle du corps d'un homme possédé qui se met tout à coup à léviter à 50 cm au-dessus du sol. Il y a aussi le récit d'une femme vomissant des clous et d'un jeune garçon brûlé par de l'eau bénite.
Oh non, non, c'était pas des spasmes. J'étais sur le lit, il s'est mis tout entier au mouvement. Il trépidait, il se soulevait du sol, il roulait dans tous les sens, avec moi dessus.
Madame McNeil, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas le lit de votre fille, c'est son cerveau.
À écouter enfin l'émission L'Expérience, disponible sur le site de France Culture. Pierrick Mouton est allé à la rencontre de prêtres exorcistes pour comprendre les signes d'une possession démoniaque et le déroulement d'une séance d'exorcisme.
Lorsque sont en contact un prêtre exorciste qui reçoit un être qui vient pour un problème et qui se met à convulser, on se rend vite compte qu'on est comme sur une scène. Une scène dans laquelle il y a des rôles et des lieux de jouissance différents selon qu'on se place du côté du prêtre exorciste ou qu'on se place du côté de celui dont le corps jouit. Et c'est étonnant de voir comment ça donne lieu aussi bien à des manifestations de fascination comme de rejet. Le prêtre exorciste met en scène en fait une lutte entre deux instances supérieures, une divine qui est censée être au-dessus du diable, mais l'autre quand même qui est une instance supérieure et maléfique.
Nuit blanche, couleur 3. Démons et possession, est-ce avant tout une question de manipulation, de suggestion ou une réalité ? Difficile de vous servir, en guise de conclusion, une réponse toute prête. Elle ne saurait d'ailleurs que renforcer vos convictions personnelles, tantôt éclairées par une réflexion lumineuse, tantôt plongées dans l'obscurité du doute. Ce qui est sûr, c'est que nous avons d'un côté des témoignages tout à fait troublants, parfois même authentifiés par des tierces personnes, et d'un autre côté, une mise en garde contre les abus en tout genre dont les premières victimes sont, hélas, des personnes souvent seules et crédules. Oui, le mal est et reste une notion indissociable de notre humanité, une notion sur laquelle s'interrogent encore et toujours les philosophes, les politiciens, les théologiens et parfois même le monde scientifique, mais c'est vrai avec un peu plus de difficulté.
Tu es une tigresse au milieu de moutons stupides. Tu es venue au monde pour être vénérée. Tu es la messagère d'un dieu.
Fais transfert dans le corps de cet animal. Maintenant, je vais vous
Ça y est.
Il a réussi à passer.
L'op dans le corps de cet animal. Maintenant, je te piège.
En parlant de mal incarné, on se demande toujours ce qui peut pousser tout à coup un homme à en tuer d'autres juste pour le plaisir de voir une personne souffrir, puis mourir.
J'aime tuer des gens parce que c'est tellement marrant, c'est plus marrant que tuer des bêtes sauvages dans la forêt, parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous à tuer.
Cette pulsion morbide que l'on retrouve chez tous les serial killers, nous allons l'aborder dans notre prochaine Nuit Blanche. Une nuit de pleine lune que vous allez passer en compagnie du tueur du Zodiac, dont on ne connaît toujours pas avec certitude la véritable identité. Élevée au rang de mythe avec le film de David Fincher, l'affaire du Zodiac est l'une des plus grandes énigmes policières et criminelles du XXe siècle. On le soupçonne d'avoir commis des dizaines de meurtres entre 1966 et 1978. Encore aujourd'hui, des chercheurs et des spécialistes tentent, avec l'aide des nouvelles technologies, de découvrir qui se cache derrière cette étrange signature visuelle en forme de cible.
J'ai aussi tué des jeunes de l'an dernier. Bye, bye.
Le tueur du Zodiac, ce sera le jeudi 28 janvier dans Nuit Blanche. Une nuit blanche à écouter de préférence avec la lumière allumée, parce qu'on ne sait jamais. Nuit blanche, couleur 3.